Bonjour à tous. Bonjour Guillaume Durand.
Bonjour. Alors, j'ai oublié votre prénom.
David.
Salut David.
Nous sommes très heureux de vous accueillir à la station Ozone.
Merci beaucoup.
Même si je crois que tout le monde vous connaît ici, je vais quand même vous présenter brièvement.
Ouais.
Vous êtes journaliste, vous êtes une grande figure de la radio et de la télévision. Vous avez travaillé pour Europe 1 et vous êtes actuellement animateur sur les Martinales et directeur d'information sur Radio Classique.
Exact.
Vous avez une longue et très riche carrière à la télévision. Vous avez travaillé pour TF1, LCI, France Télévisions,
Canal+,
La 5,
ouais.
TV5 Monde, j'en oublie peut-être, je ne sais pas.
Oui, pareil, premier.
Ouais, exactement. Et vous êtes aussi écrivain. On vous doit La Peur Bleue aux éditions Grasset, paru en 2000. J'étais une fois Françoise Sagan aux éditions Jacques-Marie Lafont en 2009.
J'étais très ami avec elle.
Et Mémoire d'un arythmique, toujours chez Grasset, en 2015.
Oui.
Et aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier livre, donc Déjeunons sur l'herbe, aux éditions Bouquin, qui a reçu le prix Renaudot Essai cette année. Alors, c'est un magnifique.
J'en reviens pas.
Et oui, c'est un magnifique essai, un essai libre, qui mêle à la fois des vocations de votre vie, des réflexions sur l'art, des conversations avec les artistes. Donc, c'est un objet très, très libre. Et c'est un livre, quand j'ai fini, j'ai trouvé ça magnifique. C'est un livre hanté par la mort, mais traversé par une pulsion de vie incroyable. On aura peut-être l'occasion d'en discuter.
J'espère.
Et alors, la première question que je voulais vous poser, c'est comment et dans quelles circonstances est né ce livre, ce désir de livre.
Alors, d'abord, bonjour une deuxième fois. Mon père était très beau, il s'appelait Lucien, et il est mort à 100 ans, il y a pile 2 ans. Bon. Et à la fin de sa vie, il était un peu aphasique. Quand il est mort, ma mère est encore vivante, elle sait que je suis avec vous aujourd'hui. J'essaie d'ouvrir la bouteille d'eau, parce que comme j'ai eu un cancer de la mâchoire, mais on va en parler tout à l'heure, je suis obligé de boire, parce que c'est vraiment au bout de 5 ans. Comme j'ai plus une seule glande salivaire, c'est le bordel. Et donc, mon père meurt. Nous allons l'enterrer. Je dis ça d'une manière gay, parce que c'est un personnage assez gay. Et je me suis dit, comme pour Mémoire d'un arythmique, je me suis dit, je me dois, parce que je suis un bon fils. Je suis comme Aragon, très modestement. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Ce qui me définit. Il dit la première chose qui me définit, c'est de l'horreur de dire du mal de mes parents. Vous savez qu'il était fils naturel, Aragon, mais c'est le contraire de Gilles, famille, je vouais. Il a dit je ne peux pas me définir par rapport à mes parents. Et moi, j'avais une dette énorme avec mes parents en matière d'art. C'est que, contrairement à David qui a fait une école et qui a fait l'histoire de l'art, etc. Moi, j'ai été prof d'histoire, mais j'ai été en prépa HEC, mais j'ai fait mon doctorat sur les sociétés républicaines au 19e siècle, donc aucun rapport avec l'art. Sauf que, à cette époque-là, dans les années 60-70, les marchands de tableaux, il y en a beaucoup à Paris, il y en a aussi à Bordeaux, il y en a partout maintenant dans le monde, un, ils gagnaient pas un rond, ou très peu, et deux, ils chassaient le client. Donc mes parents chassaient le client. Et ça va arriver au livre, David, vous inquiétez pas. Et comme il chassait le client, il sortait tout le temps, parce que les clients, c'était quand même des gens assez fortunés, et notamment, par exemple, Jean-Pierre Moix, Pétrus, qui était un grand ami de mon père. S'il fallait le voir, il fallait aller à Bordeaux, il fallait sortir le soir, aller dans les restaurants, etc., etc. Et donc, il sortait beaucoup, mes parents. Donc, il m'avait exfiltré dans une petite chambre au-dessus de chez eux, parce que je les dérangeais. Il voulait surtout pas que je les réveille le matin. Et deuxièmement, le samedi matin, il me disait « Écoute, on est crevés. Hier soir, on était avec les Moix au restaurant. Après, on était dans une soirée, etc. » Tout ça pour essayer de vendre des tableaux du buffet de peintres formidables. Et il me disait « Est-ce que tu pourrais garder la galerie ?» La galerie, c'était un truc qui était grand comme même pas l'estrade rue Mazarine, où il y a eu les premières expositions de César, des expositions de Dubuffet, de Klein, enfin de plein de gens. Et donc, je suis né là-dedans. Je ne l'ai pas appris. Ça a infusé, cette histoire-là. Bon. Et donc, je disais à David, avant de vous rencontrer, je disais, en fait, j'ai vécu ça à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec les nouveaux réalistes, César, Armand, puis les peintres américains, Frank Stella, les black paintings, et tout ça. Et puis, d'un coup, je me suis assez rapidement, enfant du rock, retourné vers l'arrière. J'ai fait l'histoire de l'art à l'envers. Donc, plutôt que de commencer avec Fra Angelico ou même Giotto, etc., j'ai commencé par le monde moderne de ma génération, c'est-à-dire le rock, Andy Warhol, etc. Et je me suis dit, mais d'où ça vient tout ça? Bon, Et j'ai commencé à faire, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, à remonter le temps, en fait. Et donc, des musées. J'ai toujours eu plusieurs passions, puisque, comme le disait David, j'avais la politique, c'était mon métier, le rock, c'était ma passion, et mes amis. J'ai fait beaucoup d'émissions à France 2 sur ce thème-là, et sur la littérature. Et je devais à mon père qui disparaissait. J'ai vu, quand je l'ai vu dans le cercueil comme ça, hyper bien habillé, absent, je me suis dit, c'est impossible que je fasse rien là-dessus. Je lui dois ça. Et je lui dois Manet. Parce que lui, c'était pas forcément Manet, son histoire. Mais moi, c'était devenu, et David prend à me poser des questions là-dessus, c'était devenu mon histoire. Mais je voulais pas faire une biographie de Manet parce que je suis pas historien de profession et qu'en plus ça ne m'intéressait pas, même si je raconte une grande partie de l'œuvre de Manet. Mais ce qui me touchait depuis l'enfance dans Manet, c'est le côté profondément romanesque. Moi, il y a des gens qui sont froids, qui détestent, on disait tout à l'heure, qui détestent leur famille, moi je les adore, mais j'ai eu très jeune un virus phénoménal du romanesque. Et donc, quand je regardais, par exemple, Robin des Bois de Michael Curtis avec Errol Flynn ou Gentleman Jean de Raoul Walsh en train de jouer le boxeur Jim Corbett, en plus c'était du noir et blanc, donc Manet, j'étais enthousiaste. En plus, j'étais un bon petit bourgeois de base, donc vous pouvez imaginer que quand vous voyez Errol Flynn, ça faisait quand même plutôt rêver. Donc c'est une espèce de mélange comme ça. La dette, une accumulation de produits culturels, comme on dit pompeusement maintenant, différents, des lectures, Georges Bataille, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, qui ont écrit sur Manet. Entre parenthèses, Bourdieu, c'est à mourir de rire, parce que lui qui a écrit Les Héritiers, donc dénonçant une certaine forme d'héritage culturel, Manet, c'était le prototype du grand bourgeois de gauche, dans une famille dont le père était une sorte de ministre de la justice permanent, la mère était plus ou moins parente Eugénie avec le royaume de Suède, donc c'était tout sauf le héros bourdivin. Et Bourdieu, à la fin de sa vie, il a passé son temps à faire des cours au Collège de France sur Manet, une révolution symbolique, avec des explications d'un tarabiscoté, parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'il disait étaient très intelligentes sur la révolution symbolique contre l'académisme, mais beaucoup de choses qu'il cherchait étaient pour moi totalement con, c'est-à-dire qu'il cherchait à mettre sur pied, je ne sais pas si on vous a parlé de ça, David, une sociologie du talent. Pourquoi on devient John Lennon ou Patrick Modiano? Il voulait absolument avoir une explication sociologique. Et ça, par éducation personnelle, comme j'avais rencontré des gens comme César, qui a fait sa première exposition dans la galerie de mon père, je me disais, il est bien gentil pour Dieu, mais pour essayer de trouver une explication sociologique de César, il va falloir qu'il se lève très très tôt, parce que je le voyais descendre de l'école des Beaux-Arts, c'était le plus vieil élève de l'école des Beaux-Arts, il allait voir mon père, il disait, oh purée, dudu, si on allait faire une partie de pétanque, et deux minutes après, il arrivait avec un poisson grand comme ça, où il arrivait avec des compressions que personne n'avait jamais vues de sa vie, donc c'était très compliqué de faire cette sociologie. Et comme j'ai rencontré beaucoup d'artistes contemporains, et après je répondrai beaucoup plus vite aux questions, mais c'est important pour le début, la mort, le bagage intuitif, et que j'ai rencontré beaucoup d'artistes, parce que j'ai fait des films pour LVMH avec tous les grands artistes d'aujourd'hui, une grande partie qui n'y sont pas parce que j'ai pas eu le temps, because cancer, Bas Litz, enfin tous les grands artistes allemands, les Anglais, Anish Kapoor, les Américains, Kunz, Longo, Georges, même ceux qu'on n'aime pas hein, forcément, etc. Chaque fois que je parlais avec eux, comme je parle avec vous ce soir, au bout de 10 minutes, ils ne parlaient pas de Beethoven, Proust, je ne sais pas quoi, Édouard Manet. Toutes les 5 minutes, Édouard Manet. C'est n'importe quel pays, Joana Vasconcelos, Portugal, Édouard Manet, Roméo Mivécanine, Bénin, Édouard Manet. Kunz, États-Unis, Édouard Manet. Donc je me suis dit, attendez, là il y a un problème parce que moi j'adore Manet, j'adore ce truc-là et je me rends compte que tout ce qui les a passionnés, c'est Manet. Et même, j'en prends un seul, qui est peut-être le plus grand dessinateur du monde, qui est Robert Longo, qui est un Américain qui vit à Brooklyn et qui, avant d'être un artiste, bon, avait des groupes de rock. Il me disait, nous, en Amérique, on n'a jamais su peindre comme Manet, on ne le saura jamais, on est des fabricants d'images. C'est vrai pour Edward Hopper, comme c'est vrai pour Andy Warhol. On est plus proche de l'image choc, de la publicité, de quelque chose, que la sensualité de la peinture. Et il me disait, Longo, peindre comme Manet aux États-Unis, ça n'arrivera jamais. Et donc, je me suis dit, Guillaume, au boulot.
Alors, c'est quoi le génie de Manet? Qu'est-ce, pourquoi on considère comme c'est le premier peintre moderne?
Alors, je prends un peu de café. Son père lui dit, Édouard, tu veux être magistrat comme moi. Il lui dit, pas question, je veux être peintre. Parce qu'il était dans des écoles où il avait rencontré son grand copain, Augustin Proust, qui n'a aucun rapport avec Marcel, même s'il le croisera, et qui est devenu le premier ministre des Beaux-Arts de la République. Ils vont dans des écoles privées, et Manet n'était pas un très très bon élève, il faisait beaucoup de dessins. Et donc son père lui dit, tu vas à la fac, et lui, alors là, le rebelle, hein, il dit, moi j'irai jamais à la fac de droit, ça m'emmerde. Alors son père lui dit, Naval. Ah, il dit, Naval, je veux bien essayer. Boum, il échoue. Alors là, Manet est très mystérieux. Il y a énormément de gens qui ont fait des analyses, comment peut-on dire, formelles, de la révolution symbolique qu'il incarne. Mais avoir des détails sur sa vie privée, qui était d'une complexité extrême, sur ce qu'il faisait dans ses différents ateliers, notamment 4 rue Saint-Pétersbourg à Paris, mystère total. Quand on a ouvert les lettres de Berthe Morisot, par exemple, qui a été longtemps sa maîtresse probable et son modèle après Victorine Meurant du Déjeuner sur l'herbe que vous voyez là, on voit Berthe Morisot, elle écrit à Degas toute la journée. Ils ont retrouvé, ça c'est l'excellent académicienne et biographe qui est Dominique Bonnat, ils ont retrouvé des dizaines de lettres de Berthe Morisot à Degas. Manet, qu'elle voyait toute la journée, 4 Bristol, vient déjeuner, etc. Rien du tout. Donc tout était mystérieux, il n'y avait pas tellement de traces, et en plus tout a été caviardé par la famille après. Parce que c'est une histoire complexe. Ce qui est sûr, c'est que Manet, pour répondre directement à la question de David, il s'est vécu comme un classique, mais vraiment comme un classique. Il a fait le tour de l'Europe, Dresde, Cassel, 3 fois en Italie, il connaissait par cœur les Goya, la version de la Vénus habillée, de la Vénus nue, évidemment le sublime tableau de Velázquez que je reproduis dans le livre, etc. Tout ça, il connaissait par cœur, mais il avait une obsession, je ne veux pas faire comme les autres. Une obsession. Et il entre dans l'atelier de Thomas Couture, qui est donc le grand peintre pompier et la grande star du milieu du 19e siècle. Il y a resté 6 ans. Donc il a appris tous les mélanges, tous les pigments, toutes les techniques, etc. Mais quand il arrivait pour prendre des leçons avec son copain Augustin Proust, il voyait arriver les modèles. Donc il voyait arriver des types en slip hyper baraqués qui se recouvraient d'huile partout. Il y avait donc des grandes ouvertures sur le haut de l'atelier. Et les mecs étaient comme ça. Et lui, il disait, mais attendez les gars, moi, peindre des types qui se mettent de profil pour capter la lumière à poil plein d'huile en slip, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Donc il était le meilleur élève de Thomas Couture, parce qu'il avait déjà une avance considérable sur les autres, mais lui, ce qu'il voulait, c'était pas du tout ça. Il voulait faire un portrait de ses parents, il était influencé par la peinture espagnole, notamment les toreros, un type qui était en train de boire un boc de bière, etc., etc. Avant que n'arrive la révolution du déjeuner sur l'herbe. Donc il a été jusqu'au bout de l'apprentissage technique, jusqu'au bout de sa volonté de rompre avec le passé. Par exemple, Ingres, l'odalisque, qui date 1819, le déjeuner sur l'herbe que vous voyez là, c'est donc un peu la même histoire, surtout Olympia, c'est une histoire, bon, Olympia c'est un harem, mais lui, l'odalisque dingue c'est un harem, Olympia c'est plutôt un bordel, elle est là, elle est assise avec son chat, son petit collier, etc. Donc il connaissait toutes ces références-là, mais il voulait les réinterpréter, etc. Et autre chose qui joue beaucoup, c'est que la célèbre phrase de Léonard de Vinci, le noir n'est pas une couleur. Dans la fabrication de la définition des couleurs par Newton, que je ne vous présenterai pas, Newton avait utilisé, pour essayer de définir, comme pour la gravitation, quelque chose qu'il observait, parce que c'était un génie de l'observation, qui était l'arc-en-ciel. Il a dit, moi les gars, ou mesdames, pardonnez-moi, quand je vois un arc-en-ciel, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Donc le noir et le blanc, Léonard de Vinci a raison, ce ne sont pas des couleurs. Ça n'existe pas. Manet a dit, mais il est bien gentil Newton, Léonard de Vinci, charmant garçon, mais c'est pas du tout mon histoire. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très influencé, parce que moi j'ai un peu exagéré son goût de la peinture espagnole, mais un jour il a rencontré Delacroix, qui a été une de ses grandes influences dans les années 60, juste avant justement le démarrage de sa carrière dite scandaleuse puis exceptionnelle. Delacroix lui a dit la peinture italienne, tout ça, c'est plein de mythes. On ne peut pas regarder un tableau sans connaître la mythologie grecque, la mythologie romaine. Il faut tout interpréter. Donc, d'où cette idée, la liberté guidant le peuple. Il lui a dit, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans la rue. Il y a la révolution. C'est quand même donc Manet était rentré dans ce discours. Et puis Delacroix le disait en plus, arrêtez de regarder les Italiens. Regardez les Espagnols et surtout regardez la peinture du Nord, Frans Hals, etc. Et donc quand il fait le portrait de sa mère et de son père, alors que vous trouverez, donc un monsieur entièrement habillé en noir, avec une petite toque noire, très sévère, son premier succès, 61, si la mémoire est bonne, 1800. Lui, il est né en 32, je parle de Manet. Et il y a sa femme derrière, il est un peu en recul comme ça, qu'il regarde avec un air un peu bizarre. Mais pour une raison très simple, c'est que le père était déjà archi-syphilitique. Comme lui. Sauf que lui, il venait de la choper au Brésil, parce qu'entre deux concours ratés à l'école navale, son père l'a obligé à aller faire un tour au Brésil, parce qu'il y avait un concours de rattrapage pour naval, qui consistait à aller faire un peu de bateau-école jusqu'à Rio de Janeiro. Toute cette génération a fait du bateau. Baudelaire a fait du bateau. Je ne parle pas de mon héros littéraire, qui est Joseph Conrad, etc., qui était carrément capitaine de bateau. Parce que on parlait de l'infusion de tout ce qui peut vous plaire. Moi, à cette époque-là, toutes ces gens... Bon, Conrad, c'était un Polonais qui vivait à Londres, mais qui lisait Proust à la fin de sa vie. Mais il a quand même été capitaine au long cours, d'où Au cœur des ténèbres, d'où Apocalypse Now, etc., etc. Donc, Manet, pareil, il monte dans le bateau. Et il va attraper la syphilis à Rio. Il revient avec des idées très très précises de baffer Naval et de dire non à papa, comme il a dit non plus tard à Thomas Couture, comme il a dit non à toutes les formes d'académisme. Donc là, Bourdieu a raison. Et devait arriver ce qui est arrivé. C'est que quand il a commencé à présenter dans le salon, c'est le système de l'époque, les salons, on arrivait dans les salons, quand il a commencé à présenter ses premières œuvres, le nom qu'il professait lui a été retoqué à la gueule violemment, systématiquement. Donc lui, il se vivait comme un peintre classique qui allait à la conquête du public avec des nouveautés, et le public, les plus épouvantables étant mes confrères journalistes de l'époque, se sont empressés d'entrer, de lui vomir dessus, à la vitesse de la lumière, sauf justement Baudelaire, le peintre de la vie moderne et les autres, si vous voulez. Et c'est pour ça que démarre un peu dans mon goût du romanesque cette affaire de Manet, parce que Manet a été hué toute sa vie. Il y a des jours où ça marchait, il y a des jours où ça ne marchait pas. À la fin de sa vie, on a vendu ses œuvres pour 150 000 euros quand il est mort, au profit de sa femme Suzanne. C'était le tarif d'un seul tableau de Meissonnier, qui était un peintre pompier que tout le monde a plus ou moins oublié, mais qui fut son supérieur hiérarchique pendant la guerre avec la Prusse. Parce que c'était aussi, tout à l'heure, je parlais d'Aragon. Aragon, on pense la préciosité, la facilité, etc. Enfin, c'est quand même l'homme de la Guyane française, quand même l'homme qui a été dans les tranchées. Aragon, hein. C'était pas une foule mouillée, et Manet a combattu. Ils étaient hyper républicains dans la famille, et ses frères sont allés faire la guerre à ce qu'ils appelaient à l'époque, avec un manque de subtilité qui a duré longtemps, les Boches. Et ils rigolaient pas du tout avec ça. Ils étaient patriotes, ils étaient républicains. Donc, c'est un grand bourgeois de gauche. Et ce grand bourgeois de gauche, adulé par une partie de la classe intellectuelle, a rencontré toute sa vie des difficultés avec les institutions. Et quant à sa mort, je résume, Berthe Morisot et Monet, qui considéraient que c'était un dieu vivant, même si lui faisait les déjeuners sur l'herbe et d'autres choses qui étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus esthétiques, mais peut-être moins géniales, il a dit c'est lui qui nous a fabriqué les impressionnistes, même si Manet n'a jamais voulu exposer avec eux. Il y a une grande exposition, la première chez Nadar, vous savez, le photographe, qui s'appelait Tournachon, en fait, des impressionnistes. Manet ne voulait pas y aller, il ne voulait pas être assimilé comme... Mais eux le reconsidéraient comme le patron, si vous voulez, et lui ne voulait pas faire partie de la bande de tous les impressionnistes. Mais comme l'a dit David, il a donc tout réinventé pour toute une génération qu'il a après rencontré. Cézanne, Pissarro, Renoir, Monet, bien évidemment, qui a combattu pour que les œuvres de Manet soient récupérées par les musées nationaux, a combattu pour organiser une énorme exposition aux Beaux-Arts, qui était une rétrospective après sa mort, donc à 51 ans. Et cette exposition a été huée. Ils lui ont vomi dessus en disant comment peut-on mobiliser les Beaux-Arts pour Édouard Manet. C'est que après la mort, ça a continué. Et j'ajoute un dernier mot, et après David, pour un peu des questions. J'ai honte. Hein. Non, mais c'est la passion, je suis comme ça. Pourquoi j'ai aimé ça? Je lis les mémoires d'Augustin Proust. Tout petit livre, génial, sur la vie de Manet. Je prends l'eau. Il a peint plusieurs portraits de son copain. Un portrait jeune, magnifique, et puis un portrait plus classique, un peu comme Fantin Latour a fait un portrait de Manet qu'on voit au Débat du Livre. Donc, imaginez moi et David, deux amis d'enfance, je peins le portrait de David. Et Augustin Proust le regarde et lui dit, mais enfin, quand même, toutes ces années, il est toujours très Manet, très chic, hein. Toujours super bien habillé. Il le regarde, il dit, mais quand même, toutes ces années, etc., etc. Et Manet était un type d'une grande élégance et pas du tout pleurnichard. Il dit, mais comment tu as fait pour... David, il faut poser la question, comment tu as fait, Édouard, pour traverser toutes ces années? Allez-y.
Comment vous avez fait pour traverser toutes ces années?
Et Manet lui répond, et après il arrête, ils m'ont anéanti. Ils m'ont anéanti. Et quand j'ai lu ça, en dehors des aspects formels de la peinture de Manet, j'ai compris en plus, à l'égard de mon père, pourquoi moi j'ai été tout d'un coup poussé à écrire ce livre très vite avec tous les éléments d'érudition qui m'avaient. C'est que moi, j'avais été chez un médecin qui m'avait dit que j'avais une rage de dents et en fait j'avais un cancer de la mâchoire. Donc, si vous voulez, je me suis dit, bon, maintenant ça urge puisque je suis plus là dans peu de temps. Donc j'ai rendu hommage à papa, mais il serait temps que je laisse quelque chose pour mes enfants parce que je suis cuit. Donc comme je suis cuit, il faut faire quelque chose. Et donc je me suis rué. J'ai été voir mon ancien éditeur chez Grasset, je lui dis, ça t'intéresse? Non. Donc j'ai été voir Jean-Luc Barré chez Bouquin. Mais je lui ai pas du tout dit que j'étais malade. Je lui dis, ça t'intéresse de faire un livre d'art, etc. Voilà. Et donc voilà, l'urgence est née. C'est pour ça que je fais long au début pour donner le contexte. Et alors maintenant, David, c'est à vous. Maintenant que vous avez été introduit comme meilleur ami de Manet, moi-même n'étant pas Manet, vous pouvez y aller.
Et ce qui est passionnant, c'est que c'est pas simplement un livre sur la peinture et sur l'art, c'est aussi un livre sur le cinéma, la littérature, la musique. Ouais. Il y a un vrai dialogue avec les arts.
Ouais. Là, vous voulez que je fasse long. Hein. Alors, le cinéma, deux phrases. La première, Godard meurt récemment. Donc, je relis des textes de Godard. Et je tombe par hasard, c'est toujours la même histoire. Donc Godard, vous avez vu l'histoire du cinéma, des cinémas, il y a des kilos de textes, etc., etc. Il dit, Manet, c'est celui qui a inventé le cinéma avant le cinéma. Boum. Je me dis, mais pourquoi il pense ça? Mais je dis, c'est marrant, il pense comme moi. Une prétention totale, Durand. Mais je me disais qu'effectivement, le balcon, si vous voulez, quand je voyais donc Berthe Morisot, plus un ami peintre, plus en arrière-fond, le fils qui est dans un fond ocre incompréhensible. Et Berthe Morisot qui furaxe comme ça au coin d'un balcon haussmannien avec une peinture verte qui faisait vomir les critiques de l'époque. Je me suis dit, mais attendez, c'est Fenêtre sur cour, quoi. Sauf qu'il suffit de remplacer Jean Kelly, enfin Grace Kelly par Berthe Morisot. Il y avait ce côté avant-arrière, donc le grand sens de Manet, c'est au-delà de la beauté plastique, c'est la mise en scène. Le rapport du noir, le pantalon rouge, la toute petite ombre qui est en dessous de ce truc-là, la mise en scène d'un seul personnage, le pantalon légèrement bouffant, qui est un chef-d'œuvre absolu, refusé bien sûr, mais qui est au musée d'Orsay maintenant. L'évasion des communards, Manet avait une certaine sympathie pour les communards, l'évasion de Rochefort, c'est une barque sur l'eau. On voit la barque en haut et surtout de l'eau, donc c'est vraiment une esthétique complètement différente. Donc on voit que le type il peut faire tout ce qu'il veut. C'est un peu comme Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Hein. Vous lui donnez une forêt, il en fait autre chose. Une dame toute seule, il lui met un perroquet, il en fait autre chose. Et là, il y a donc une sorte qu'on appelait dans la peinture américaine des années 50 le all over, c'est-à-dire plus de dessin préparatoire, plus rien d'autre. Il se jette sur la toile, il peint la mer, l'océan, l'évasion donc du communard, et donc petit à petit ce sens incroyable de la mise en scène a accompagné son art sublime de la peinture. Alors là, parce que moi je vais pas vous parler pendant deux heures de l'Olympia, du sujet de la prostitution, etc., parce que c'est très connu tout ça, le sens de la provocation de Manet qui a joué énormément pour Kuntz. Quand Kuntz fait des photos et des gravures et des peintures où il se peint, pardonnez-moi, en train de forniquer avec la Cicciolina, c'est entièrement cadré comme le déjeuner sur l'herbe et comme les tableaux de Manet et comme Olympia. C'est-à-dire qu'il a des trucs dans son atelier avec des reproductions. D'ailleurs, il a fait des tableaux aujourd'hui du déjeuner sur l'herbe où il met simplement une boule, c'est à chier d'ailleurs, mais il met une boule bleue à côté, simplement pour, comme une sorte d'appropriation totale de l'œuvre de ce cher Édouard. Et donc moi, c'est cette fin, ça est anéanti la situation qui était la mienne, c'était quand même assez sensible, donc ça m'a beaucoup touché. Je déteste Pleurnicher, j'ai un côté comme lui combattant, j'aurais jamais pu subir ce qu'il a subi, parce qu'il a vu, il a fini par avoir de l'ataxie. Vous savez, parce que vous vous intéressez aux livres, à la culture, et vous, livres aussi. Schubert, syphilis, Flaubert, syphilis, Baudelaire, syphilis, la grande vérole. C'est Manet qui a fermé les yeux de Baudelaire, si vous ne le saviez pas. Baudelaire est mort à 46 ans, Manet était dans sa chambre, et il y avait la femme de Manet qui jouait une adaptation pour piano de Wagner, ce qui est quand même assez complexe. Et donc elle a joué du piano et lui a fermé les yeux pendant que l'autre délirait complètement. Donc si vous voulez tout ça, j'ai trouvé ça bouleversant. J'étais passé de la gaieté de Gentleman Jim à quelque chose d'aussi beau, d'aussi noir et blanc, d'aussi touchant, mais de profondément bouleversant. C'est-à-dire le type qui traverse avec une élégance extraordinaire le 19e siècle, qui n'aime pas son époque, qui est totalement ambigu sexuellement parce qu'il pratiquait un libertinage à outrance, mais qui déteste quand vous voyez le bar, c'est tous ces bourgeois qui se ruent sur les actrices, les courtisanes, les cocottes, vous savez, qui sont avec leur smoking coincé contre les filles. Bon, le chef-d'œuvre absolu étant évidemment le bar aux Folies Bergères, avec ce tableau très complexe où on voit une fille face à vous, et en fait, on se rend compte que c'était un système de glace et qu'il y a un client derrière qui lui demande pas que de la limonade. Donc, et ça, il l'a pas un an avant sa mort en 82, mais on lui a quand même scié la jambe. Plusieurs médecins lui ont quand même scié la jambe dans son salon à vif. Et peu de temps après, il est mort. Et à la fin de sa vie, il a fait des choses. Il était dans une petite maison de campagne à Bellevue. Et il peignait des pots de fleurs. Les plus beaux pots de fleurs de l'histoire, les pots de fleurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a à la fois la vie, la mort, les fleurs qui tombent, les fleurs qui se fanent. C'est extraordinaire. Il y a une très belle exposition, d'ailleurs, chez la Galerie Lelong à Paris, David Hockney aussi, où il n'y a que des pots de fleurs. Et donc, évidemment, on en revient à la conversation de tout à l'heure. C'est pas du tout la même ambiance, hein, David Hockney. C'est la gaieté pop des années 60, les couleurs, etc. Mais bon, les natures mortes, c'est pas nouveau dans l'histoire de la peinture. Mais c'est quand même des pots de fleurs que Manet faisait parce qu'il pouvait plus se lever, il pouvait plus bouger, il pouvait plus faire des grands formats. Il a tout donné dans le bar aux Folies Bergères et après il a fait des pots de fleurs. Donc tout ça, ça. Et donc moi j'écrivais. J'avais une assistante que j'avais recrutée sur Twitter, qui était une fille qui était hyper brillante. Et je me disais comment faire, parce que c'était un peu urgent. Parce qu'il fallait que je commence avant de me faire opérer. Après être opéré, je pouvais rien faire. Et il fallait que je recommence après. Et je regardais sur sa tête. Je lui dis, Elena, tu t'emmerdes. Elle me dit, non, ça va. Bon, c'est bon, je tiens le truc. Donc on va pouvoir découper chapitre par chapitre, etc. etc. Et puis comme j'adore la littérature, je me suis aussi dit, et c'est peut-être ce que ont aimé les jurés Renaudot, qu'il fallait construire ça plutôt comme la littérature américaine, disons de la période Ginsberg et les autres, c'est-à-dire du cut-up, presque du cinéma. C'est-à-dire qu'on passe, on raconte le voyage à Rio de Manet, par exemple, et puis tout d'un coup, on passe à autre chose, un truc sur Led Zeppelin, la musique, puis à un moment, on parle de la Casa di Papel pour voir que finalement, le petit collier qu'il y a sur Olympia, vous le retrouvez aussi dans des multiples concerts de Mick Jagger et des Rolling Stones. Donc il y a des espèces de permanences comme ça qui circulent dans l'histoire de l'art et des arts. Et on lui doit énormément beaucoup. Et je pense que c'est tout simplement le grand génie français de la peinture. Le grand génie français de la peinture. Voilà. Et que bien que j'ai écrit un livre sur lui, mais j'ai pas voulu écrire une biographie parce que pour moi, les grands peintres, j'ai lu une chose très jolie de John Mitchell. Il y a une exposition à Paris à la Fondation Vuitton avec Monet, les tableaux de Monet, mais à tomber à la renverse qui viennent des musées américains. Elle a dit, moi, et c'était une alcoolique, ma mère l'a bien connue. Elle me dit, j'étais à l'Élysée avec elle, c'était épouvantable. On l'a ramassé par terre toutes les 10 minutes. Il recevait le Monde des Arts, etc. Comme beaucoup des artistes américains des années 50, le côté Pollock, Rebelle, hop, et ça recommence. Et elle disait, moi, je peins uniquement pour échapper au langage. Donc, elle voulait pas recevoir les critiques, elle voulait pas recevoir les gens, etc. Je veux deux choses, échapper au langage. Et quand on lui posait des questions, elle lui dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la sauvagerie. Donc, votre baratin, etc. Donc ça m'intéressait beaucoup de faire un peu de l'anti-Bourdieu tout en ayant lu Bourdieu, etc., etc. Ou de l'anti-Foucault. Un petit mot sur Foucault, Michel, dont tout le monde le connaît, l'éloge de la folie, etc., etc. Foucault, il y a un peintre qui vient de moi, qui s'appelle Gérard Fromanger. Foucault, c'était la contre-histoire officielle de la philosophie, etc. Il s'intéressait beaucoup à la peinture, évidemment. Et quand il est tombé sur Manet, évidemment, tout le désordre sexuel de Manet, vous pouvez imaginer que Foucault, qui était homosexuel, qui revenait des backrooms de Californie, ça le passionnait au-delà du possible. Et Fromanger dit... Et donc Foucault dit Manet, c'est l'anticipation de la peinture abstraite. Bon, si on veut, c'était l'obsession de Foucault. Et Fromanger disait, c'est marrant, Michel Foucault, vous lui montrez un tableau pendant 5 minutes... Il part dans une bibliothèque pendant 8 jours et revient avec une théorie. Donc c'est le contraire de John Mitchell. Échapper au langage. Lui, c'est d'ailleurs les mots et les choses, c'est préfacé, c'est les Ménines. Il y a un texte énorme sur les Ménines dont tous les historiens d'art sérieux aujourd'hui vous disent que c'est un tas de conneries absolument phénoménales qu'il a raconté, même si le type était hyper bruyant. Donc moi, je me suis jeté comme une sorte d'enfant. Je sais pas quoi particulier dans ça, et je suis parti, et ça aboutit au Renaudot d'une manière complètement invraisemblable, puisque je suis parti avec ma femme qui, malheureusement, elle aussi est malade. On est parti se reposer à Taormina, et j'étais pas arrivé à Taormina depuis 2 minutes que tout d'un coup, il y a ou pas 10 minutes, mais de 2 jours. Et je reçois un texto de Gisbert qui me dit, attends, rentre en urgence, parce qu'il est quand même, on vient de recevoir un texto de Leclésio. Il n'est pas impossible que tu aies Renaudot. Je dis, mais moi, je peux pas avoir le Renaudot. J'ai une tête de télé. Je suis édité par Editis, c'est donc la maison d'édition, le groupe de Bolloré. tout ce que déteste le milieu culturel, donc tête de télé, éditiste, un bouquin sur l'art, jamais ils sont intéressés dans les jurys littéraires, etc. D'où je pensais que j'allais rester à Taormina pendant 15 jours et rien du tout. Maintenant, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Crézio a envoyé un texte à tous les jurés. Il a dit, moi, je ne veux pas voter pour le roman, mais je voterai pour l'essai à tous les tours pour Guillaume Durand. Je vous dire que quand j'ai repris l'avion en retour, j'étais quand même extrêmement flatté. Et je pense qu'il a eu un effet un peu... Il a quand même pris la base de littérature. Il a trouvé ça intéressant. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas parlé depuis. Mais il a dû influencer un peu les autres qui se sont dit finalement, cet objet bizarre dont parlait David mérite non seulement au nom de la peinture, mais au nom de la façon dont ça a été écrit, qu'on remarque plutôt qu'un essai trop classique. Je crois que vous savez tout. J'ai 70 ans, je ne suis pas mort, ma femme non plus, et je suis très heureux d'être à Bordeaux. Pas très loin de chez moi, à Biarritz.
Quelque part dans le livre, vous écrivez, vous dites, j'écris ce livre comme un testament à la hauteur de ma culpabilité. C'était quoi cette culpabilité?
Alors ça, là... C'est, vous êtes plus Augustin Proust, c'est Sigmund que je rencontre. Quand on fait une carrière grand public, ce qui a été mon cas, au début avec passion et après avec tout ce que vous pouvez imaginer de la télévision, on n'arrête pas de faire des compromissions. Et je me suis toujours, jusqu'à ce moment où papa disparaît dans le cercueil, je me suis dit, mais comment je n'ai jamais eu le culot d'aller dans une chaîne de télé et leur dire, on va faire un pivot sur la peinture, etc., etc. Alors, c'était ma culpabilité. Elle était très aidée par les patrons de chaîne qui me disaient, mais ça n'intéresse strictement personne. Mais alors, la peinture, on s'en fout. On s'en fout. Tu vas diviser le public en 4, en 6, déjà la littérature, etc. Donc j'avais une énorme culpabilité par rapport à mon métier de ne pas pouvoir parler de ce qui me faisait brûler, en fait. J'ai pu faire des émissions sur les livres, j'ai pu faire des émissions sur le rock, j'ai pu faire des émissions, j'en fais tous les jours, sur la musique classique, le dimanche soir, etc., etc. Peinture, pas question. Deuxième chose, j'ai été enseignant. Enseignant, histoire de l'art, zéro, en tout cas dans ma génération. Il y avait un tout d'un c'était comme la musique. Hein. La musique, vous voyez passer un prof de musique une fois par semaine avec un pipeau qui disait bébé, bébé, puis c'est ça la musique. Et vous voyez passer de temps en temps un prof de dessin qui vous disait faites une maison, ajoutez un soleil. Bon, c'était à peu près tout. Et puis après, j'ai eu la chance, moi, de faire des études moyennes parce que j'étais quand même assez porté sur le rock'n'roll, mais enfin, quand même préparer les grandes écoles. Donc, j'ai rencontré plein de gens. Qui réussissait très bien, des Lambrons et toute cette bande-là qui était à la fois normalien et narc et agrégé de je sais pas quoi. Et je leur disais, mais et j'avais même posé la question à Macron. Je lui dis, mais pendant les concours, il vous est arrivé qu'on vous pose une question sur la peinture? Donc par exemple, à Radio Classique, j'ai Christophe Barbier, normalien, Marc Lambron, normalien, Carole Beffa, musicologue. Normalien. Samuel Blumenfeld, critique de cinéma, normalien. Donc quand même des gens qui sont beaucoup moins cons que moi. Je leur dis, pendant les concours, est-ce que vous avez un jour posé une question, je sais pas, sur Van Gogh, pendant le truc le plus populaire du monde? Ils m'ont dit, jamais. Jamais. Alors là, je me suis dit, culpabilité, mais qu'est-ce que fout l'éducation nationale? Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait ce métier, mais on se moque du monde. C'est qu'il faut absolument tout savoir sur Proust, sur Conrad, sur Victor Hugo, sur Rimbaud, sur tout ça, pour accéder aux classes supérieures, pour faire fabriquer en dehors des mathématiques les élites du pays. Mais alors, vous pouvez ne rien connaître à la peinture. Et d'ailleurs, je raconte une histoire de la culpabilité. Un jour, je vais dîner chez Alain Duhamel, qui n'est quand même pas le Mick Jagger que l'on peut s'imaginer. Donc Alain, vous allez dîner chez Alain, que j'aimais beaucoup, que j'ai connu en pain. Vous arrivez à table, et au moment où vous asseyez, arrive une pintade aux choux, donc déjà vous avez peur, et vous avez à peine commencé les choux et la pintade, qui vous fout à la porte, parce qu'il doit se coucher pour se lever à 6h du matin, parce qu'à l'époque c'était le cas d'Europe 1. Et je me retrouve à côté d'un, d'Alfred Grosser, qui était le grand professeur d'allemand, l'homme qui représentait à chaque fois qu'il se passait quelque chose en Allemagne, la culture allemande, etc., etc. Alfred part et je me retrouve assis à côté de lui. Bon, j'étais très flatté de parler à Alfred, surtout que j'ai toujours eu une énorme culpabilité à l'égard de la philo et de mon copain Luc Ferry, avec qui je suis d'accord sur rien en matière de peinture, mais je me suis même battu violemment avec lui parce que vraiment il y comprend rien. Mais moi, comme je comprends pas grand chose à la philo, on est au moins il y a match nul et dans les deux sens du terme. Et je m'approche de Grosser, mais si vous voulez, comme si je m'approchais d'Hegel, et je me dis Alfred, monsieur, etc., etc. Je lui dis, mais est-ce que vous connaissez Gerhard Richter? Lui, non, pas du tout. Puis après, je lui dis, mais est-ce que vous connaissez Penck? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Georg Beslitz? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez Anselm Kiefer? Jamais entendu parler. Est-ce que vous connaissez Georg Jemendorf? Vous connaissez pas du tout. Est-ce que vous connaissez Stockhausen? Ah non, pas du tout. Alors là, il y avait la Pintade, il y avait les Choux, il y avait Alfred Grosser, il y avait moi, il y avait Alain Duhamel. Je me suis dit, mais attendez, l'enseignement en France, culpabilité, c'est quand même des timbrés. C'était ce type qui devait être bac plus 60, spécialiste mondialement connu de l'Allemagne. Il ne connaît pas ceux qui, en Allemagne, sont les plus célèbres aujourd'hui. Parce que la littérature allemande, aujourd'hui, c'est Thomas Bernhard, mais il est autrichien. Ça a été Günter Grass qu'on a mis en cause son passé. En revanche, les peintres allemands, aujourd'hui, ils dominent le marché. Enfin, le marché... Et en grande partie l'art mondial, plus que les Américains. Ils n'y connaissaient strictement rien. Donc culpabilité, elle était là. C'est-à-dire que j'ai mis 70 ans à devenir jeune pour essayer de faire ça. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, David, c'est un livre jeune, même si ça a été écrit par un vieux.
Oui, ça livre plein d'énergie.
Plein d'énergie.
Est-ce que vous avez un rapport existentiel à l'art?
J'ai un rapport existentiel à l'art et j'ai absolument aucune envie de laisser ma fille de 14 ans toute seule. Vous savez, la vie, c'est comme Manet. Hein. Quand j'étais opéré, 10 heures, puis chimiothérapie, radiothérapie, etc. À chaque fois que j'allais faire de la radio, j'avais un petit mot de ma fille. Elle a 14 ans, Angélique, elle est super brillante. Et je lui dis, mais je peux pas te laisser aller jusqu'à l'âge de 20 ans toute seule. Tu peux pas perdre ton père, c'est impossible. Parce que toi qui es brillante, si tu perds ton père, qui est quand même pas très frais, vous savez, quand je dis ça, je vous dis un autre truc aussi, parce que là, je suis venu à Bordeaux, mais pour me confesser. Je suis pas venu pour boire du Bordeaux. J'ai eu très peur de ce livre. Parce que la syphilis, la syphilis de Manet, j'ai obligé de lire des bouquins un peu chiadés, que je n'ai pas trop entré dedans là-dessus, mais j'avais un cancer inexpliqué et tout ça. Ce livre m'a fait peur pendant 6 mois. J'ai écrit très vite au début, parce que j'avais tout dans la tête. Et tout ce que vous allez retrouver comme illustration, c'est des choses que j'avais composées sur l'ordinateur. Donc en fait, Marie-Laure de Frétin, qui était avec moi de chez Bouquin, le sait. C'est-à-dire que tout était déjà prêt. Il n'y avait pas besoin de faire venir un documenté. C'était clop comme ça. Après, ils m'ont dit ça, on n'en veut pas, ça coûte trop cher, etc. etc. Mais c'était marrant. Mais je ne voulais pas laisser ma fille seule. Je ne voulais pas laisser mon père sans rien. Et je ne voulais pas que ma fille se retrouve seule sans père. Et maintenant, elle se moque de moi. Et quand j'ai eu le Renaudot, ils étaient donc à Taormina, sur la plage, avec ma femme. Et ils m'ont dit « Bravo, papa », etc. Et c'était tellement génial. « Bravo, papa. 70 ans. » Non, mais qu'est-ce que je voulais que je... À part vous retrouver à Bordeaux et faire connaissance avec David, il ne peut rien m'arriver de mieux. La culpabilité a explosé.
C'est parfait. Peut-être une dernière question sur l'art contemporain. À un moment, vous dites que l'art contemporain n'existe pas, sauf pour ses ennemis. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est Luc, ça. C'est Luc Ferry. À mort, l'art contemporain. Il pense que Rothko, c'est de la tapisserie. Donc je lui ai dit, écoute, donc il n'arrête pas de parler l'art contemporain. Mais si vous parlez à Daniel Buren, par exemple, alors moi, vous avez le droit de... Alors moi, je m'avance dans l'histoire de l'art. Je sais que l'histoire de l'art existe, comme vous, comme il y a une histoire de la littérature, mais comme vous, j'aime pas. Comme vous, je me dis, Rambrillet, j'adore ça. Moi, Rambrillet, je déteste. Modiano, ça me fascine, mais ça fait 43 fois qu'il écrit le même livre. Ce qui n'est pas du tout mon cas pour Modiano. J'aime énormément. Philippe Roth, c'est très bien, mais le vieux juif qui a des problèmes d'âme avant de mourir, etc., ça peut me fatiguer, alors que la Tâche est un des plus beaux romans du monde et le type était absolument... Donc, dans toute forme d'histoire de l'art, il y a un problème personnel qui est en jeu et qui est fondamental, c'est qu'on va vers quelque chose, on sait ce que c'est que cette histoire, mais on n'est pas obligé d'aimer tout. On a le droit de détester des choses que les autres, que l'histoire de l'art considère comme absolument formidable. Et ce que j'ai remarqué avec Luc, puisque, et avec d'autres, bien évidemment, puisque Luc, je le dis, c'est vraiment un ami, c'est qu'il ne arrêtait pas de me parler d'art contemporain. Et quand je parlais je disais à Daniel Uren, qui d'ailleurs ne m'a, je lui ai donné 14 fois rendez-vous pour parler de Manet, chaque fois il avait autre chose à foutre. Donc, mais je lui disais, mais Daniel, il me dit, mais attends, moi, quand je me lève le matin, je me dis pas que je suis un artiste contemporain, je dis je suis Daniel Buren, comme Paul McCartney vous dit pas je suis un musicien contemporain, comme Phil Glass ne dit pas je suis je sais pas quoi. Donc, je me suis rendu compte petit à petit, si vous voulez, qu'au départ, c'était une commune, une quand l'art était moderne, donc Manet, c'est le grand texte de Baudelaire, c'est le peintre de la vie moderne, mais ça valait au-delà de Manet. Donc on a bien compris ce que ça voulait dire, c'est la rupture avec l'académisme. Mais après, quand la peinture est passée du côté de l'Amérique dans les années 50 après la guerre, ce qui était la classification, c'était à l'américaine post-war artiste. Donc post-war artiste, ça allait de Jackson Pollock à Francis Bacon, en passant par Jean Dubuffet, etc., etc. Et puis nous, pour des raisons qui tiennent aux marchands de tableaux, aux maisons de vente, etc., ils ont voulu faire un truc qui résumait le problème. Dans un premier temps, ça fonctionnait, parce que art contemporain, ça voulait dire, en fait, c'était la version commerciale de l'avant-garde. Quand il y a eu les installations, les artistes minimales, etc., ça avait une cohérence. C'était comme une école. Mais aujourd'hui, quand vous lirez mon livre, si vous le lisez, l'art contemporain, ça ne veut strictement rien dire, parce que vous avez Robert Longo qui fait des dessins figuratifs, vous avez Claire Tabouret qui fait de la peinture qui ressemble à, presque à ce que faisait Vuillard, vous avez des gens comme Barcello, espagnol, qui s'est enfermé au Mali pendant des années pour faire des tableaux totalement abstraits, dont le titre est « Le déjeuner sur l'herbe », si vous voulez. Donc vous avez toute forme d'expression artistique différente, qu'on regroupe sous un nom qui, finalement, pour les artistes eux-mêmes, n'a plus aucun sens. Alors, c'est une commodité de langage. Je vais pas me battre contre la commodité de langage, parce que c'est absurde. Mais ce que je voulais simplement dire par ce titre, c'est que concrètement, ça n'existe pas aujourd'hui. Puisque, de toute façon, il y a des Chinois, il y a des Espagnols, il y a des gens qui viennent de partout. Et maintenant, il ne fonctionne plus comme ça a été. Donc, vous voyez, l'histoire de l'art, les classiques, les modernes, les impressionnistes, après les cubistes, les surréalistes. Donc, on voit bien comment ça s'avance. Après la grande peinture américaine des années, les surréalistes. Donc, les surréalistes partent souvent aux États-Unis. Ils disent bah, la peinture, c'est d'abord et avant tout une question d'inconscient. Ils tombent. Je résume, je fais du. Je vous résume l'histoire de l'art en 2 minutes 50, j'ai passé pour un ridicule. Il tombe sur Jackson Pollock, ça c'est Roberto Mata qui vient de le Chilien, qui donc leur raconte un peu toutes ces histoires d'inconscient. Pollock se rue sur sa toile, il est de l'inconscient, hop, il avale 3 bouteilles de scotch, et il se rue sur sa toile et il se juge les drapings et tout ce qui commence, etc., etc. Vous rajoutez Barnett Newman derrière, un grand peintre américain qui dit il faut en finir avec la culture occidentale. Donc maintenant, ça vaut 45 millions de dollars. Mais il faut quand même pas oublier qu'il était d'abord et avant tout, comme lui, il était candidat anarchiste à la mairie de New York, Barnett Newman, hyper élégant. Et Rothko était trotskiste, et bien qu'originaire de... Donc c'était des gens qui avaient un engagement politique qu'on peut même pas imaginer dans le territoire américain. Donc là, on voit la logique, si vous voulez. On voit comment ça progresse. C'est passé par les suprématistes russes qui ont justement utilisé le noir... comme Manet, Guernica, c'est du noir. Donc on voit la liaison. Mais aujourd'hui, les gens font de tout. si vous avez des gens qui font des installations, au PNAC à Bordeaux, là j'ai vu qu'il y avait un nouveau patron qui venait d'arriver. Vous avez des gens qui font de la peinture quasi classique, vous avez des gens qui font de la sculpture soit classique, soit moderne, etc. etc. Donc, et puis ça vient de partout. Avant, tout était en France, puis tout a été chez les anglo-saxons. Et maintenant, vous avez des hindous, des chinois, etc. etc. Donc, c'est complètement éclaté. Et mon seul conseil d'amoureux survivant et d'amateur de Bordeaux, c'est vous tracez votre route. Et quand même, et là où il faut quand même dire une chose qui est un peu contraignante, c'est que de la même manière que si on pose un Steinway ici à la place de David, il est peu probable qu'on devienne Arthur Rubinstein ou Keith Jarrett ou Oscar Peterson. Dans le type qui passe devant un tableau et qui vous dit ça me plaît ou ça me plaît pas, autant j'ai dit que le jugement se devait d'être profondément personnel pour être profondément émouvant. Mais si vous faites pas l'effort, non pas de lire Guillaume Durand, mais d'un minimum de choses, vous allez tout le temps rester à la porte. Parce que c'est quand même des gens extrêmement sophistiqués, qui ont envie d'être sauvages, mais qui procèdent d'une histoire quand même. Et si il suffit simplement... Vous voyez, quand vous allez au Louvre, par exemple, ou au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, et vous voyez des gens qui défilent dans les tableaux à 100 à l'heure, en attendant d'aller à la buvette et acheter 3 cartes postales, bah, vous êtes certains qu'ils ne sont pas quand même intéressés énormément à ce qui se passait. C'est le tourisme culturel... avec ce que ça a de plus sympathique, parce que moi j'ai rien contre, mais de ce cas de trop approximatif. Donc moi j'ai voulu faire populaire pour les gens qui ne savaient pas, un peu jeune malgré mon grand âge, et puis je pense que le fait d'avoir été malade, ça a été très efficace pour comprendre que ce pauvre Manet n'a pas réussi à triompher de l'anéantissement de la vie. Et que moi, grâce à la médecine, j'avais réussi à triompher momentanément de l'anéantissement de ma vie. Et donc, je lui dois bien ça.
Merci. Merci à vous.